Avant d'ouvrir la parole, j'aimerais simplement vous saluer toutes et tous de la part de l'Église de Genève, bien sûr. Alors même s'il y a quelques rangs un peu éparpillés dû aux vacances, nous demeurons quand même les uns avec les autres dans la communion du Christ. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais juste prier. Seigneur, tu vois tout ce que nous venons de chanter, de prier en ton nom. Et nous sommes heureux de pouvoir ce matin vraiment ensemble tout à nouveau regarder à toi au travers de ta parole. Merci parce que tu es celui qui veut, dans ton immense grandeur, s'occuper de chacun de nous, aussi petits soyons-nous. Alors Père Céleste, merci de te révéler encore à chacun. Merci aussi par ton esprit de bien vouloir nous accorder tout à nouveau ta grâce. Dans le précieux nom de Christ. Amen. Je ne sais pas s'il vous arrive parfois de vous poser, j'allais dire, des questions idiotes. Moi, ça m'arrive. Et il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, de perdre mes parents. Le Seigneur les a repris. Et puis, je me suis demandé à un moment donné, mais en définitive, qu'est-ce qu'ils ont bien pu nous transmettre ? Oh, bien sûr, ils nous ont transmis la vie, autrement nous ne serions pas là. Ça, c'est la première des choses, évidemment. Et puis, ils nous ont appris à être des adultes dans un monde où il est bon, parfois, n'est-ce pas, de savoir se différencier des autres. L'éducation que nous avons reçue, même si on veut la modifier, elle nous marque au plus profond de nous-mêmes. Alors certains, bien sûr, ne vont retenir que le meilleur, d'autres que le pire, de tout ce que nos parents ont bien pu nous apporter. Et sans vouloir me dévoiler outre mesure, je dois avouer qu'une des leçons de vie que, entre autres, que ma maman m'a apprise, c'est celle du contentement. Cela peut surprendre peut-être, mais c'est là quand même un état d'esprit, empreint d'Esprit Saint, qui est nécessaire et que j'ai retrouvé parfois chez certains chrétiens avec plus ou moins d'acuité. Et j'aimerais ce matin partager avec vous quelques versets justement dans le livre du contentement par excellence, et je vous exhorte durant ce temps peut-être de vacances que vous allez avoir à le relire et à le méditer. Et si je vous demandais quel est-il, ce livre du contentement dans la parole de Dieu? On va déjà arrêter avec l'Ancien Testament, restons dans le Nouveau. Peut-être quelque chose vous vient à l'esprit. Une lettre de Paul. Philippiens, exact. Et je vous propose ce matin de lire quelques versets dans cette lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, et nous lirons les versets 4 à 7. Philippiens 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Ce passage commence par ce verset 4 très connu, qu'il est parfois compliqué, ne croyez-vous pas, d'appliquer à toutes nos circonstances de vie. Et pourtant, il devrait en être toujours ainsi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. David Brown appelle ce verset le verset tout-terrain, en raison de sa référence biblique, Philippiens 4:4, tout simplement. Mais nous avons du mal à vivre cela. Quand nous ne faisons que regarder à nos vies, au gré des circonstances, et celles-ci, en effet, sont souvent changeantes et parfois même douloureuses. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le contentement, c'est, d'après le dictionnaire, la satisfaction de l'âme et de l'esprit. Beaucoup pensent que cette satisfaction dépend de ce qu'ils possèdent. Et nous savons en effet que posséder est le mot clé et moteur de notre société. Celle qui est censée donner du sens à nos vies, soit de manière extravagante, soit de manière très sobre peut-être. Posséder des richesses, posséder des biens immobiliers, des biens ménagers, suffisamment de sous pour partir en vacances, posséder la notoriété, le pouvoir, l'estime des autres, la santé, la connaissance, et que sais-je encore, posséder, oui. Et cela peut aller encore plus loin, quand nous voulons avoir ce que l'autre. Désirer quelque chose n'est pas un mal en soi. C'est tout à fait normal. Le problème, il est plutôt de ne pas se réjouir de ce qu'on a. D'être toujours mécontent par rapport à ce qu'on n'a pas. De le vouloir à tout prix en pensant même que cela nous est dû. Ce mécontentement est à la base de bien des maux. Il entraîne la convoitise, la dépression, l'amertume, la haine, le vol, et voire même peut aller jusqu'au meurtre. L'apôtre Jacques ne dit pas autre chose, versets 14 et 15 de son chapitre 1er. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Le chrétien n'est pas à l'abri de cet engrenage. D'ailleurs, quand Paul parle à son fils spirituel qui est Timothée, il ne lui dit pas autre chose au verset 6 du chapitre 6 de sa première lettre. « Certes, lui dit-il, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. » Or, il se trouve que le chrétien n'est pas toujours content avec ce que dit Paul, dit à Timothée, d'ailleurs un peu plus loin au verset 17, avec les bonnes choses que Dieu nous donne pour que nous en jouissions. L'idée même que Dieu peut nous satisfaire sans nous donner ce que ce monde matérialiste considère comme des nécessités est parfois impossible pour certains chrétiens. Impossible, n'est-ce pas, de vivre sans les derniers cris de la technologie, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos poches, si je puis dire, avec les fameux portables. Pour nous satisfaire, Dieu doit-il subvenir à cela? Frères et sœurs, souvenons-nous que seul Christ est la source de notre contentement. Dans notre texte du jour, le verset 6 est souvent cité, n'est-ce pas, lorsque nous sommes submergés par les soucis et qui n'en a pas. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, ce verset comporte une expression fondamentale pour qu'il puisse vraiment se réaliser dans nos vies. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Nos prières, nos supplications doivent être impérativement réalisées avec action de grâce, c'est-à-dire avec une reconnaissance infinie, totale, réelle de ce que Dieu est pour nous par son Fils Jésus-Christ. Et cette reconnaissance, elle est l'essence même essentielle, indispensable, qui permettra à la prière et à la supplication d'être dans la volonté de Dieu. Ainsi, elle peut être entendue, parfois même exaucée, mais elle nous permettra de vivre certainement plus positivement la plupart de nos situations. Est-ce qu'il nous arrive souvent de prier Dieu pour la seule joie de ce qu'il nous procure lui-même, par sa personne, et non pas uniquement suite à des événements heureux? Christ doit être réellement la source de notre contentement. Et l'apôtre Paul a souligné cette vérité il y a bien des siècles en arrière. Privé de tout, enchaîné à un gardien, il écrit dans cette lettre aux Philippiens un peu plus loin, versets 11 et 13 du chapitre 4. « Oh, je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. » Humainement parlant, l'apôtre Paul a écrit ces mots durant la période la plus triste de sa carrière. Il était en effet probablement à ce moment-là dans une prison de Rome. Mais il avait trouvé le secret de la joie. Non dans les circonstances qu'il vivait, mais dans le Dieu d'amour qui permettait ces circonstances. À un moment donné, d'ailleurs, l'apôtre pensait que les Philippiens croyaient que son contentement dépendait de leurs dons. Et nous savons par ailleurs que l'église de Philippe est une de celles qui a le plus soutenu l'apôtre Paul. Non. C'est pourquoi Paul insiste sur le fait que c'est Christ qui lui donne les forces nécessaires pour garder une attitude de foi et de confiance. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, dit-il au verset 21 du chapitre 1er. Peu lui importer ce qui lui arrivait. La mort ou la vie, l'important c'était Christ. Mais pour dire et vivre cela, l'apôtre Paul est passé par ce que j'appelle l'école du contentement. Dans le verset 11 que nous avons lu tout à l'heure, Paul a dit « J'ai appris ». Il a fallu qu'il apprenne. Et il a été sûrement mis à l'école du contentement. Or, notre Père Céleste, qui nous aime plus que tout, nous fait parfois passer justement dans cette école par la classe des coups durs. Et il s'attend à ce que nous apprenions bien nos leçons. Car le contentement signifie qu'il faut apprendre à nous réjouir de ce que nous avons, mais aussi de ce que nous sommes. Nous devons accepter ce que Dieu permet et changer ce qu'il nous donne la possibilité de changer, que ce soit sur le plan matériel, physique, relationnel, affectif ou spirituel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au verset 5 du chapitre 13 « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ni l'amour d'un mari, d'une femme, d'un enfant, ni l'affection d'un ami, ni même un bon travail avec un salaire conséquent, ni des expériences heureuses, ni même une bonne église, ne pourront me satisfaire pleinement. Seul Jésus peut le faire, même si je n'ai pas toutes ces autres choses. Dans cette école du contentement, il y a, à mon sens, trois principes essentiels pour que celui-ci puisse se développer. Et j'aimerais rapidement les évoquer avec vous. Il nous faut tout d'abord être, je crois, basiquement dans la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tout simplement, si nous pensons être à l'heure actuelle exactement là où il nous veut, ça veut tout simplement dire que nous ne serions pas plus heureux nulle part ailleurs dans le monde. Il paraît que le mot « content » vient du latin « continere », qui signifie « contenir » ou « tenir ensemble dans quelque chose ». Quand nous admettons le travail de Dieu dans nos vies, nous tenons ensemble au lieu de tomber en morceaux. Nous pouvons ainsi réagir de manière plus positive à la souffrance que parfois nous endurons, nous percevons ou nous ressentons. Et nous savons que si nous sommes au creux de la vague, le Seigneur saura nous en sortir d'une manière ou d'une autre. Un autre principe de cette école, c'est celui qui consiste à vivre selon la parole de Dieu. Ne nous leurrons pas et nous l'avons quelque peu rappelé tout à l'heure, Satan s'occupe particulièrement de nous, au point de semer la confusion dans nos cœurs par rapport au contentement. Oh, tu le vois, lui, là-bas, il part toujours en vacances. Je ne sais pas comment il fait. Puis il a encore changé sa bagnole cette année. Pourtant, elle n'était pas foutue, mais il a le dernier cri. Et puis moi, je suis toujours en galère. J'arrive pas à finir mes fins de mois. Et puis, je vous laisse faire la suite. Hein. Nous devons rapidement éloigner ce genre de pensées sinistres qui vont autrement semer le mécontentement, la jalousie, voire même la haine dans nos cœurs. Et la parole de Dieu, par la proximité qu'elle nous donne de vivre en Jésus-Christ et par lui, nous permet de voir de manière beaucoup plus juste et réelle nos propres aspirations, qui ne se matérialiseront peut-être jamais. Mais elle nous rappelle notamment ce que Jésus dit en Luc 12, verset 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il est donc indispensable de nous nourrir et de méditer la parole de Dieu qui peut nous aider par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint à vivre vraiment le contentement. Mais il y a un troisième point que j'aimerais évoquer, c'est que nous devrions être des témoins pour Dieu. Cela signifie que nous devrions être beaucoup plus préoccupés des intérêts de Dieu que des nôtres. Est-ce bien naturel comme attitude? Personnellement, ce n'est pas toujours mon cas. L'apôtre Paul, lui, il voulait voir le bon côté des choses. Et il nous donne un exemple en crucifiant ses ambitions, ses murmures et sa propre tendance à se plaindre. Il s'est décidé à regarder le bon côté des choses et à penser aux autres qui sont dans des situations pires que les siennes. Savons-nous voir le côté positif de notre situation ? Oh, j'avoue et je suis persuadé que ce n'est pas toujours évident. Mais il est important au moins d'essayer de le voir. Savons-nous voir ceux qui, à côté de nous, sont bien moins lotis que nous? Et vous savez, maintenant, depuis près de 40 ans que je côtoie les malades de toutes sortes, jeunes ou vieux, je peux vous dire que j'ai été plus d'une fois interpellé par ce qu'ils vivent. Nos propres situations peuvent parfois les aider à les comprendre et à les soutenir. Mais ce n'est pas toujours évident. L'apôtre Paul, lui, il voulait être content. Content pour le nom de Christ. Il savait, nous dit-il, vivre dans l'humiliation ou dans l'abondance. Avoir faim ou être rassasié. Il savait être pauvre. Il savait être riche. Il savait être rejeté. Il savait être accepté. En péril ou en sécurité. Il savait être fatigué, mais il savait aussi être reposé. Pour lui, l'important était que Dieu soit présent dans la situation qu'il vivait et qu'il l'utilise. Et le terme qu'il emploie d'humblement ou d'humiliation, selon les traductions, manifeste bien l'acceptation d'un état d'abaissement, même la pauvreté, pour le nom de Christ. Acceptons-nous notre situation, bonne ou mauvaise, avec contentement, pour que le nom de Christ soit glorifié. L'attitude de Paul dans le contentement a eu pour effet que des âmes soient sauvées. Rendez-vous compte. Même lorsque tout allait mal pour lui, qu'il était privé de tout confort ou de ce que le monde considère comme essentiel, même privé de sa liberté, il avait l'esprit tranquille, parce qu'il cherchait à utiliser la situation dans laquelle il se trouvait pour témoigner de Christ. Versets 12 et 13 du chapitre 1er de cette lettre. « Je souhaite que vous le sachiez, mes frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. » Vous imaginez un peu la situation? Paul, enchaîné à des soldats qui prenaient des tours de garde pour le garder régulièrement. Alors, je ne sais pas s'il faisait les 3-8, les 2x12 ou comment il s'arrangeait. Mais toujours est-il qu'il a eu un certain nombre d'équipes qui se sont relayées auprès de lui pendant des semaines, voire même des mois. Conclusion. Paul avait en permanence un auditoire qui était prisonnier de lui. That's a question, savoir qui était prisonnier de qui. Et c'est ainsi que Paul voyait le côté positif de son état. Mais il va encore beaucoup plus loin, l'apôtre. Il va plus loin. Quand il voit même le côté positif de ceux qui annoncent Christ dans un but mal intentionné. Alors, il pousse le bouchon un peu fort, me direz-vous. Versets 15 à 18 du chapitre 1er de cette lettre. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes. Mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Extraordinaire. Quelle est notre attitude, nous ? Lorsque des frères ou des sœurs dans la foi agissent avec des motifs injustes à notre égard, Est-ce vraiment l'évangile alors que nous mettons en avant en priorité? Cet évangile du pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, est-il vraiment réel? Est-il alors vraiment vécu? Au regard de la vie de Paul, on s'aperçoit que le contentement en Jésus-Christ a imprégné chacune de ses pensées et de ses actions. Au point même qu'une telle attitude avait des répercussions sur les autres frères dans la foi. Verset 14 du chapitre 1er. Ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Est-ce que nos propres attitudes de contentement vécues dans le Seigneur peuvent encourager les frères et sœurs qui nous entourent? Je le crois. J'en suis persuadé. Est-ce qu'une telle attitude de contentement vécu dans le Seigneur peut encourager dans la foi les frères et sœurs que nous sommes. Oui, je le crois. Alors que Dieu nous donne sa sagesse et sa force à chacun de nous, car nous en avons tous besoin. Mais il me faut conclure, bien sûr, et le verset 6 de notre texte du jour nous a notamment amené à développer au travers de nos prières et de nos vies le contentement en rendant à Dieu des actions de grâce. Et, nous dit l'apôtre, verset 17, et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Ces deux versets sont étroitement imbriqués. Et le contentement exprimé dans le verset 6 a des implications dans celui-ci également. En effet, le petit mot de liaison « et » est là pour nous confirmer que la paix que Christ nous donne fait partie de l'accomplissement en nous, par Jésus-Christ, de cette attitude de contentement que nous pouvons avoir dans nos vies. Oui, la paix de Jésus-Christ est également à ce prix-là. Oh, juste une courte anecdote pour terminer. Un jour, un missionnaire, décrivant les fleurs qui poussaient autour de la mission où il était, disait « J'ai même vu aujourd'hui une orchidée qui a poussé dans un tas d'ordures. » Tout ça pour dire que le germe du contentement qui est dans nos cœurs peut, par la grâce de Dieu, développer une belle fleur ou un beau fruit, c'est selon. Mais il va demander un soin constant. Et c'est pourquoi Paul affirme au verset 13, de ce chapitre 4, je peux tout en celui qui me rend puissant. Ainsi, les fleurs du contentement peuvent même sortir d'un tas d'ordures. Alors oui, frères et sœurs, n'hésitons pas. N'hésitons pas aussi souvent que nécessaire à enclencher dans nos vies ce fameux verset tout terrain, Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Et je vous propose un instant de réflexion. Merci notre Dieu, notre Père, parce que ta parole nous rappelle encore ce matin combien c'est en toi et en toi seul qu'est la source de vie et de notre contentement. Merci Seigneur de mettre en place tout ce qui dans nos vies pourrait faire obstacle à cette pensée, afin que nous puissions à toi et à toi seul rendre en toute chose l'honneur et la gloire qui t'est due. Merci parce que tu connais parfaitement la situation des uns et des autres, tu connais nos besoins et tu veux y pourvoir. Et Seigneur, nous savons que nous avons non seulement un Dieu qui est grand et infini, comme nous l'avons chanté au début de ce culte, mais nous savons que tu es aussi ce Dieu si personnel, si intime, qui veut aujourd'hui, comme demain, ne pas cesser de nous accompagner par ta présence. Merci notre Dieu, notre Père, de rendre toutes choses dans la joie de t'appartenir, que nous puissions ne pas l'oublier. Merci parce que tu es celui qui prend soin et qui veut encore bénir. Béni sois-tu pour ton amour et ta fidélité, dans le précieux nom de Christ. Merci aussi, Seigneur, parce que tu es celui qui va combler nos besoins selon sa richesse. Que la gloire et l'honneur soient rendus à toi, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.